Bonjour et bienvenue dans Altermédia en escapade, l'émission d'info indépendante qui renouvelle et diversifie vos sources d'informations locales. Ça fait pas de mal dans un paysage médiatique où la concentration et la droitisation s'intensifient. Dans ce contexte, les radios locales comme Escapade et les médias indépendants comme Altermidi participent plus que jamais au pluralisme. Le pluralisme, c'est l'expression de toutes les opinions, c'est le fondement de notre système démocratique basé sur la liberté d'opinion et de choix. Aujourd'hui, la concentration des médias est telle qu'il est devenu urgent de soutenir le principe de la diversité de l'information. Cela même si nous ne partageons pas les mêmes opinions. Alors merci à vous d'être là. Au sommaire de cette émission, côté politique, nous revenons sur un point d'actualité qui a retenu notre attention ces dernières semaines. Les propos du général Mandron tenus au Congrès des maires de France, c'est-à-dire auprès des élus les plus proches des citoyens, sur notre manque supposé de force d'âme et le risque que le pays ne soit pas prêt à accepter de perdre ses enfants et à souffrir économiquement. Ces propos très directs et crus n'ont pas donné suite à un véritable débat. Faut-il s'en étonner ? Dans la rubrique médias, il sera question de résistance face à la montée en puissance de l'extrême droite qui étend sa sphère d'influence sur l'opinion publique. Pour conclure le mois de l'ESS, nous sommes allés à la rencontre de la présidente des Instituts régionaux de travail social en Occitanie qui sensibilise les futurs travailleurs sociaux à l'économie sociale et solidaire. Enfin, dans la rubrique culture, nous évoquerons l'esprit collectif de la Biennale des Arts de la Seine en Méditerranée qui s'est achevée le 22 novembre avec Olivier Socomano qui co-dirige avec Nathalie Garraud le CDN de Montpellier. Le 107e congrès des maires, censé être consacré aux besoins concrets des communes, a été largement dominé par la question sécuritaire. Alors que les élus attendaient des engagements fermes sur les dotations, la décentralisation ou les ressources humaines, c'est la présence massive de la gendarmerie et la mise en scène des enjeux de défense qui ont marqué cette édition. Messieurs, je vous invite à vous taire, le plan de la bataille a été tracé, le commandant est désigné. C'est à lui de conduire l'action. Ces mots qui pourraient être issus du dernier Conseil des ministres, ils ne sont pas issus de ce Conseil, puisqu'on les doit à Louis XV qui mettait aussi un terme au conciliabule de son état-major avant la bataille de Fontenoy en 1745. Si la France de 2025 n'est pas en guerre, le scénario établi par nos illustres et mal-aimés présidents donne mission à l'armée à nous préparer au combat. Le 18 novembre, les propos du général Mandron sur le manque de force d'armes et le risque que le pays ne soit pas prêt à accepter de perdre ses enfants nous ont replongé dans l'histoire sombre du passé. Mais cette intervention sur la militarisation des enjeux publics au Congrès des maires de France, alors même que les communes font face à une crise structurelle de moyens, nous ramène aussi à un combat alarmant que n'ont pas pointé les grands médias. Pendant que les élus locaux demandent plus de considération et de moyens pour répondre aux besoins des populations, le gouvernement souhaite nous préparer à la guerre. Le discours du chef d'état-major des armées s'inscrit dans la droite ligne de la loi de programmation militaire votée par le Parlement en 2023 et de la nouvelle revue nationale stratégique publiée le 14 juillet dernier. Celle-ci prend acte de la dégradation de l'environnement sécuritaire en Europe et pour hypothèse centrale, elle prend une guerre majeure de haute intensité, la Russie étant désignée comme une menace sans équivalent pour les intérêts français et ceux de ses alliés. En conséquence, un engagement des armées pour défendre le flanc est de l'Union européenne en cas de nouvelle agression russe est envisagé, mais aussi une préparation matérielle et morale du pays pour faire face à ce potentiel choc. Stiefelhinterfinger, morceau 78, qu'on dédie au général Mandon. Alors, vous vous demandez peut-être ce que vient faire un tel sujet sur la ligne éditoriale d'un média indépendant interrégional comme Alter Midi. Eh bien, c'est simplement parce qu'il apparaît à notre équipe que certaines décisions nationales, européennes et méditerranéennes ont d'importantes conséquences sur la vie locale, suffisamment pour qu'on s'y intéresse et qu'on s'intéresse aux liens de cause à effet permettant de mieux comprendre les problématiques politiques et économiques en région. Lorsque le chef de l'armée s'invite au congrès des maires ou que le Premier ministre réaffirme, comme il l'a fait mi-novembre à Albi, aux Assises nationales des départements, la montée en puissance du régalien, en clair que pour ce gouvernement, la hausse du budget consacré à la défense, à la justice et à la sécurité intérieure demeure, quoi qu'il en coûte, prioritaire. Donc, en gros, qu'on conserve l'État, les fonds de l'État pour la police et pour l'armée, et on les retire partout ailleurs. Au moment où les départements qui consacrent 70% du budget de fonctionnement aux dépenses d'aide sociale ne savent pas comment ils vont boucler leur budget en 2026, cela relève pour nous d'une information qui concerne pleinement nos territoires. Ainsi, le fait de porter un regard décentralisé sur l'information participe de la démarche d'Alter Midi. Plusieurs élus ont déploré que la sécurité nationale, certes essentielle, vienne occulter les urgences du quotidien, logement insalubre, inflation des coûts de l'énergie, manque de personnel municipaux et pression constante et croissante de leurs administrés. En filigrane, les élus locaux expriment un syndrome d'épuisement, de frustration, celle d'un monde local qui attend des réponses pragmatiques, mais se voit renvoyé à des préoccupations stratégiques qui ne relèvent ni de son camp direct, ni de ses priorités immédiates. Pour beaucoup de maires, cette édition du Congrès a mis en lumière un fossé grandissant entre le besoin des communes et la communication sécuritaire de l'État. La guerre, cet horizon que certains qui ne l'ont jamais vécu jugent nécessaire de nous préparer, divise les forces politiques depuis 2022. Entre ceux qui préconisent de mettre fin dès maintenant à la guerre Ukraine, jugeant prioritaire le désarmement et la négociation d'une paix durable, faite de garanties de sécurité mutuelle, et ceux qui, à l'inverse, voient là un discours défaitiste et complaisant envers Poutine, exhortent au maintien de l'aide militaire sans limite à l'Ukraine, mais dans la sphère des médias de masse détenus par 10 milliardaires, ce débat n'a tout simplement pas lieu. Nous avons aujourd'hui en Europe affaire à des fous, ou plutôt à une folie collective qui a saisi en masse les individus des milieux sociaux dominants, soutient le démographe Emmanuel Todd, dans une contribution que nous avons publiée sur le site Alter Midi. Rien qu'en France, des milliers de journalistes, d'hommes politiques, d'universitaires, de chefs d'entreprise, de hauts fonctionnaires participent à l'hallucination collective d'une Russie qui voudrait conquérir l'Europe. Tel ou tel individu ne saurait être tenu pour personnellement responsable, précise Todd. Nous avons affaire à une dynamique psychique collective. L'UE tente d'entraîner des peuples britanniques, français, allemands et beaucoup d'autres dans une vraie guerre, poursuit Emmanuel Todd, évoquant un basculement des gouvernements européens dans une réalité parallèle. Si nous ajoutons les entorses à la liberté de l'information et à l'expression du suffrage populaire, entorses de plus en plus massives et systématiques dans l'espace de l'Union européenne, nous nous rapprochons plus encore de la notion d'extrême droite, alerte le démographe. Fondée comme association de démocratie libérale, l'Europe mute en espace d'extrême droite. La banalisation du vocabulaire et des thématiques d'extrême droite dans les médias était à l'ordre du jour de la rencontre qui s'est tenue samedi dernier à la Bourse du Travail à Paris, à l'initiative des forces vives de la société civile, de médias indépendants et des principaux syndicats de journalistes. Cette journée de rencontre avait pour objet de construire la résistance face à la montée en puissance de l'extrême droite dans les médias. Ces derniers mois et années, la situation politique s'est considérablement dégradée, que ce soit en France, en Europe et dans le monde. On le voit actuellement au Chili notamment, avec une extrême droite accédant au pouvoir ou sur le point d'y parvenir. Quand elle n'y est pas, ses idées sont banalisées et préparent le terrain. En France, la constitution de l'empire médiatique du milliardaire Bolloré ou la croisade culturelle du milliardaire Sterrin servent le même objectif, l'alliance des droites et la victoire des idées réactionnaires et racistes en 2027. Les médias sont le passage obligé de la victoire. Le collectif actionne les leviers à leur disposition pour protéger le journalisme comme pilier de la démocratie face à une menaçante offensive. Le 16e numéro d'Intermédi est bouclé, mais il n'est pas encore arrivé dans les kiosques ni dans les boîtes aux lettres de nos abonnés. On s'en explique. Dans un contexte de coupes budgétaires généralisées, nos contenus sont les premiers touchés. Bien que reconnus comme publication politique et générale par la commission paritaire depuis maintenant plus de 5 ans, Intermédi n'a jamais bénéficié d'aucune aide à la presse. Ce manque de soutien fragilise lourdement notre modèle économique. Cette année, de nouveaux refus d'aide nous placent dans une situation critique. Intermédi traverse un moment difficile. Le prochain magazine à paraître est consacré à une question qui nous tient à cœur. Où en est le collectif ? Il est prêt à partir, mais nous sommes dans l'incapacité de garantir la production et la diffusion de ce 16e numéro d'Intermédi Mag. Après plusieurs refus d'aide publique, nous sommes arrivés au bout de nos réserves. Il nous faut encore retrouver 3000 euros, et nous savons que les temps sont durs pour tout le monde, mais si Intermédi existe encore, c'est grâce à vous, grâce à celles et ceux qui pensent qu'une information indépendante ancrée dans le Sud est ouverte et ouverte sur la Méditerranée, mérite d'être protégée. Si vous le pouvez nous faire un don, même modeste, en vous rendant sur le site d'Intermédi, cela fera une vraie différence. Chaque geste compte réellement. Merci à vous et aux premières donatrices et donateurs qui nous soutiennent déjà. Et on conclut cette rubrique média par une touche plus optimiste avec une bonne nouvelle. Ça avance un petit peu concernant les radios locales, mais il faut quand même rester très vigilant. On espère qu'une victoire pour les 750 radios associatives françaises. Le projet du gouvernement était de supprimer 44% de leurs subventions. Et on va tout faire pour qu'ils abandonnent ce combat.
It is, ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I've got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going on. So
What It's Worth, pour ce qu'il ça vaut, ça veut dire. Une reprise de la chanson de Buffalo Springfield, version soul par Myriam Makanba en 1970. Un titre qui traverse le temps. On ne résiste pas à vous traduire la version du premier couplet. Ça dit « Il se passe quelque chose ici, on ne sait pas exactement ce que c'est. Il y a un homme armé là-bas, il me dit de faire attention. Les enfants, c'est quoi ce bruit? Regardez tout ce qui se passe. La paranoïa s'installe profondément. Elle s'insinue dans notre vie. Tout commence quand on a toujours peur. Si tu sors du droit chemin, on t'emmène. Tu ferais mieux de t'arrêter. Hey, c'est quoi ce bruit ?» Le mois de novembre qui vient de s'achever, c'était le mois de l'ESS, l'occasion d'aller à la rencontre de la présidente de l'IRTS Occitanie, Marie Meunier, qui a ouvert ses portes la semaine dernière. Alors bonjour Marie Meunier, vous êtes présidente de l'IRTS Occitanie. Oui. Et aujourd'hui, dans le cadre du mois de l'ESS, l'IRTS a ouvert ses portes à un événement en deux parties. Je crois le matin, il y avait un marché solidaire, et puis cet après-midi, vous avez discuté, on en parle. Ce marché solidaire, ce matin, ça, c'était quoi l'idée ?
L'idée, c'est un marché qui se fait depuis plusieurs années, mais qui prend de l'importance à chaque fois, c'est de réunir un certain nombre d'établissements, notamment des ESAT, plus particulièrement des ESAT, et de leur permettre d'offrir les produits qu'ils fabriquent. Alors, ça peut être des objets, mais ça peut être aussi des plantes, du miel, des gâteaux, des cultures. Et c'est un marché qui, chaque année, a beaucoup de succès parce qu'il se passe au sein de l'IRTS et un fonctionnement par réseau. Alors, c'est vrai qu'on peut-être on n'en fait pas une publicité suffisante, mais déjà, il y avait vraiment beaucoup de monde ce matin. C'est un beau marché.
ESAT ?
Établissement spécialisé d'accueil pour le travail.
D'accord.
Voilà. Donc, ce sont des établissements, et il y en a beaucoup dans notre périmètre, mais ailleurs aussi, qui accueillent des personnes en difficulté, soit d'inclusion, bien sûr, mentale, physique ou autre, et qui travaillent. C'est une forme d'éducation par le travail.
Alors, l'IRTS, ça forme les travailleurs sociaux. Et puis ici, en Occitanie, il y a une dimension très, très ouverte sur la question de l'économie sociale,
oui,
et solidaire, qui est une forme de transition.
Oui.
Comment vous définissez ce rapport entre travailleurs sociaux et économie sociale et solidaire ?
D'abord, l'IRTS, nous sommes un établissement à Montpellier, mais nous avons un établissement aussi à Perpignan et à Carcassonne. C'est vous dire qu'on couvre énormément le territoire avec une volonté politique d'aller chercher aussi les personnes pour faire des formations dans ces territoires-là, parce qu'on a observé que les jeunes ou moins jeunes ne se déplaçaient plus. Hein. Donc, si on offre la formation, la situation locale où ils habitent, les gens viennent, sinon ils ne viennent pas. Et Perpignan existe depuis plusieurs années, parce que c'est un territoire plus éloigné, mais plein en soi. Donc, nous formons aussi beaucoup d'éducateurs, de médiateurs sociaux, d'assistants sociaux, enfin, tous ces métiers, il y en a une kyrielle de métiers à caractère social pour travailler soit dans les collectivités mais dans les associations ou aussi tout simplement au service de la population en général.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une évolution dans les métiers du travail social qui fait que auparavant, oui, les travailleurs sociaux étaient plutôt employés par des collectivités et des établissements et aujourd'hui il est aussi possible de créer sa propre entreprise?
Aujourd'hui quand on est éducateur par exemple, je prends ce métier là mais d'autres, on peut créer sa propre entreprise. Et ce qui m'alerte beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, on observe des éducateurs libéraux, hein, qui ne travaillent plus du tout au sein d'un collectif, d'une équipe, mais qui s'installent en libéral, comme une infirmière peut s'installer. Et donc, ça me paraît, ça nous paraît quand même quelque chose de difficile, de dangereux et des évolutions qui nous inquiètent. C'est pour cela qu'on accélère le pas sur l'économie sociale et solidaire et qu'aujourd'hui, je porte en tous les cas, ayant été élue pendant presque 20 ans à l'économie sociale et solidaire, ayant pris la présidence de cette belle maison, je pense qu'il faut absolument aujourd'hui aller vers l'économie sociale et solidaire et démontrer aux travailleurs sociaux et futurs travailleurs sociaux qu'ils sont bien dans l'économie et que l'économie, c'est du collectif et qu'elle est au service de l'humain. Elle n'est pas au service de projets financiers importants. Elle est au service vraiment de l'humain. C'est une économie centrale aujourd'hui. On peut faire de l'économie sociale et solidaire, comme M. Jourdain le disait, sans le savoir. Et on y est vraiment. Et tous ces ESAT, tous ces établissements qui accueillent à la fois des personnes en difficulté sociale, mais aussi en situation de handicap aussi, sont au cœur de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Ne serait-ce ce marché solidaire ce matin, où un nombre d'objets a été vendu, qu'ils ont fabriqué, des choses magnifiques, des tableaux, mais aussi des gâteaux, des plantes qu'ils ont cultivées, etc. Tout ça, c'est de l'économie socialiste. Ils produisent de l'économie et ça devient central par rapport à eux dans leur vie et aussi pour les salariés. Parce que c'est les salariés, c'est les éducateurs d'aujourd'hui, c'est vraiment du sens. On donne du sens aujourd'hui à la relation humaine.
Du sens qu'on recherche un peu partout. Oui, vous disiez, on peut faire de l'économie sociale et solidaire sans le savoir, et on peut aussi en profiter sans le savoir, parce que beaucoup de gens ne savent pas que tous les jours, ils ont affaire quotidiennement à cette économie.
Et le principal exemple, c'est souvent les mutuelles. Parce qu'on est un pays quand même où beaucoup, beaucoup de personnes ont une mutuelle, mais ils ne savent pas que c'est le cœur de l'économie sociale et solidaire, les mutuelles. C'est à un moment donné, au XVIIIe siècle, les gens, il y avait des problématiques de santé publique énormes, les gens ne se soignaient plus, et un certain nombre de personnes se sont regroupées pour dire, on va mettre de l'argent ensemble pour pouvoir se soigner, et soigner un peu plus de monde, et c'est là où les mutuelles ont pris un essor énorme aujourd'hui dans notre pays. Et c'est souvent l'exemple que j'aime à citer parce que les mutuelles ont pignon sur rue aujourd'hui, mais on ne sait pas que c'est de l'économie sociale et solidaire. Et ils ne le disent pas assez eux-mêmes. Mais ça, c'est à eux à le faire aussi.
Alors, les RTS Montpellier aussi, elle se lance depuis un certain temps dans la formation. Il y a notamment une formation DS.
Le DS.
Qui justement va éviter cette dérive dont vous parliez tout à l'heure pour former des chefs d'entreprise.
Les chefs d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, des dirigeants de l'économie sociale et solidaire. On a observé que dans les entreprises, pas que de l'ESS, souvent elles pouvaient se casser la figure parce que le dirigeant ou les dirigeants manquaient de formation, n'avaient pas la capacité d'avoir une vision à long terme, n'anticipaient pas, manquaient de formation sur par exemple les services publics, les finances publiques notamment, ça s'apprend. Et on a décidé ici, mais il y en a d'autres diplômes en France, mais notamment à Montpellier, de mettre en place ce diplôme, le DES, qui est un diplôme national reconnu, une certification qui aujourd'hui forme des personnes en cours d'emploi, des chefs de service, chefs d'entreprise ou autres, ou des jeunes qui terminent un cursus et qui veulent à un moment donné se diriger une entreprise. Et ce diplôme leur apprend tous les méandres du management, en passant à la formation économique et sociale aussi. Le droit social s'y apprend. Et c'est une formation où on a peu d'échecs et on a beaucoup de réussites. Et c'est ça qui est étonnant parce qu'on forme quand même des personnes qui sont déjà en cours d'emploi, qui ont une solide expérience, souvent, la plupart, et on les forme à être dirigeants, à se positionner autrement, et en même temps d'acquérir une assurance aussi, un positionnement social pour embarquer tout le monde dans la boîte où ils travaillent. Et ça donne de très beaux résultats et j'en suis très fière. Alors j'espère qu'on va pouvoir le tenir longtemps. Pour l'instant, il marche bien. Mais on est dans des temps de crise, comme vous le savez. Le monde ne va pas très bien autour de nous. On n'a même pas aujourd'hui un budget national. Donc on est très inquiet pour nous. Mais pour d'autres, le monde associatif est très, très inquiet. Et je crains que les années 2026 et 2027 soient difficiles, mais elles ne seront pas difficiles si on arrive à se regrouper tous. Comme à chaque fois qu'il y a eu des crises, le secteur de l'ESS a su se regrouper, a su faire masse pour résister et pour aller plus loin. On a eu un ministre, je parle de Benoît Hamon, qui nous a laissé une belle loi en 2014 sur l'économie sociale et solidaire. Cette loi n'est pas assez connue. Il faut l'utiliser, il faut aller vers ça pour pouvoir mieux construire le monde d'aujourd'hui et de demain.
Cette loi, justement, elle définit les principes de cette économie qui diffère un peu de l'économie classique.
Tout
on parlait de chef d'entreprise. Bon, diriger une entreprise, c'est compliqué. Diriger une entreprise de l'économie solidaire, ça l'est peut-être encore plus parce qu'on doit prendre en compte une dimension particulière. Ouais. Vous pouvez rappeler les grands principes de l'économie
sociale. Grands principes, c'est aussi les principes de l'ESS, l'homme, un homme, une voix, enfin, bon, etc. C'est aussi par rapport au monde économique, je pense au CCI, à tout ce dispositif économique que nous avons avec nous, autour de nous. C'est aussi de pouvoir intégrer ce monde-là de façon plus officielle et d'imposer nos règles à nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les bénéfices, ils sont réintégrés, comme dans les coopératives, dans le projet d'entreprise. Les bénéfices, ils ne servent pas à autre chose qu'aux salariés et à l'entreprise en elle-même. Une série. Alors, ça mériterait vraiment une réunion particulière pour mieux définir cette loi. C'est une vraie loi, elle est très longue, mais elle appuie sur un certain nombre de points qui me paraissent aujourd'hui pouvoir disparaître si on n'utilise pas la loi. La loi, elle est là, elle est faite pour être utilisée. Mais je sais que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui ou de fédérations aujourd'hui sont vigilants aussi sur la chose. Donc,
vous l'avez dit tout à l'heure, il s'agit de remettre l'humain au centre du dispositif.
Ouais, l'humain au centre.
Cet après-midi, donc, vous avez invité différents acteurs de l'économie sociale et solidaire dans l'amphithéâtre de l'IRTS avec les étudiants. Mmh. C'était quoi l'objet?
L'objet, c'est d'en parler avec eux aussi, hein, parce que c'est le mois de l'économie sociale et solidaire, je le disais depuis 12 ans ou 13 ans, je ne sais plus. C'est un mois consacré où, dans toutes les entreprises, on parle de ESS. Et en parler avec les étudiants, avec des salariés aussi, profiter du marché solidaire où nous avons quand même des salariés de présent, des chefs de service, chefs d'entreprise présents aussi. Ils étaient dans la salle, d'ailleurs. Donc, du coup, c'est un peu vulgariser l'économie sociale et solidaire. Moi, je ne suis pas une spécialiste. J'ai plutôt une vision politique des choses. Mais je pense que c'est divulguer ces idées, essayer d'aller pêcher avec eux pour prendre date et langue avec eux pour pouvoir, à un moment donné, faire évoluer le monde économique, qui en a bien besoin.
Ça, c'est certain. Vous parliez de vision politique. Il y a eu une question intéressante d'une étudiante dans la salle qui parlait de la question de la valeur travail qui peut être reproduite quelque part dans l'économie sociale et solidaire et qui pourrait être aussi révisée dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui.
Oui, mais écoutez, j'ai trouvé son intervention extrêmement intéressante et je suis assez fière qu'une étudiante de l'IRTS pose ce type de questions parce que je trouve qu'aujourd'hui, on peut se questionner sur la valeur travail et qu'en fait-on et en quoi elle correspond pour l'individu, n'est-elle pas vie glissante, enfin, toutes ces questions dont elle a parlé, Foucault parlait beaucoup. On est dans l'ESS, on est dans le monde du travail, hein, faut pas s'illusionner, mais peut-être qu'on peut rendre les choses plus faciles et plus légères aussi, puisqu'on est quand même à quelque part obligé de travailler, hein, ça fait partie. L'idée, c'est à travers l'ESS de travailler plus en accord avec soi-même, avec du sens, des valeurs et d'avancer ensemble aussi. Et je pense beaucoup à l'ESS comme motif de cohésion, comme élément, pardon, de cohésion sociale. C'est quelque chose, à un moment donné, de très important, où chacun peut se retrouver dans une entreprise. Chacun a sa place, mais on peut se mettre ensemble autour de la valeur travail, bien sûr, mais la rendre plus légère et plus facile.
Avec une certaine horizontalité, notamment dans le management, qui manque beaucoup dans l'économie classique.
Tout à fait. Le management, on n'en parle pas jamais assez. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler absolument. Et dans l'ESS, on en travaille. D'ailleurs, notre DES forme aussi au management de tous ces chefs de service, voire directeurs, qui aujourd'hui ont aussi des difficultés parce que le monde du travail a changé. On n'a plus du tout le même rapport au travail aujourd'hui. Les plus jeunes et les moins jeunes aussi, c'est différent. Donc la question, à travers la question que cette jeune femme posait, il y a cette valeur-là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Vous voyez, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Vers quoi on va?
Et vers quoi on va, quand on regarde un petit peu ce qui est prévu dans le projet de budget, même s'il est très hypothétique, on le sait, c'est quand même pas terrible pour ce qui concerne l'économie sociale et solidaire. Est-ce qu'on en sait un peu plus là-dessus?
Non. Enfin, l'État, aujourd'hui, on n'en sait pas plus. La seule chose qu'on sait, c'est que le secteur de l'ESS, donc le secteur associatif, On sait qu'on est extrêmement pénalisé. Les associations, il y a une quinzaine de jours, ont compris ça, se sont déplacées en manifestation à Montpellier et ailleurs. Et d'ailleurs, je les remercie parce que j'ai senti que tout le monde était mobilisé. Ça fait énormément plaisir et il va falloir se bagarrer parce que rien n'est prévu hein, pour nous. Donc, on va se battre et on va y arriver. Je suis persuadée qu'on y arrivera. Mais j'insiste beaucoup aujourd'hui sur la nécessité de se rassembler et de faire front ensemble. C'est pas le moment de se disperser et de se laisser attirer par d'autres lunes qui paraissent. Il faut être ensemble avec nos différences, hein, parce qu'on est certainement différents les uns et les autres, mais autour des valeurs d'humanité et l'humain d'abord. Et j'insiste beaucoup sur la notion d'humanité aussi, parce que les temps sont difficiles et cette humanité, elle risque de s'effilocher rapidement. Donc, faut aller, mais restons optimistes.
Tout à fait. Merci beaucoup, Marie-Emmanuelle.
Merci beaucoup.
When I look out my window, many sights to see. And when I look in my window, so many different people to be. It's strange, so strange. It's very strange to me.
You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Oh no.
Exact. exactement, et le soleil brille sur les platines de Radio Escapade. La saison des sorcières revue par Lana Del Rey ouvre la rubrique culture, une rubrique culture qui croise aujourd'hui avec une autre rubrique d'intermédie, celle de la Méditerranée. Nous consacrons le dossier du prochain Intermédie Mag à la question où en est le collectif, et dans ce cas nous sommes allés à échanger avec Olivier Saccomano, concepteur avec sa complice Nathalie Garraud de la Biennale des Arts de la Seine en Méditerranée. Un événement très inspirant dont la troisième édition vient de s'achever. Vous en retrouverez trace à travers les critiques et la dizaine de spectacles que nous avons suivis cette année, qui sont en accès libre sur intermedie.org. L'échange avec le co-directeur du CDN de Montpellier porte sur un autre aspect qui a retenu notre attention, la notion de collaboration qui se tisse entre les 9 structures de diffusion au sein d'un comité de pilotage associant labels nationaux, scènes conventionnées, théâtres municipaux, lieux indépendants, qui mettent en œuvre ensemble cet événement aux esthétiques plurielles. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce collectif, comment il fonctionne et comment est-ce qu'il prend forme aujourd'hui ?
Ben, c'était l'idée dès le début de se détacher d'une forme festival existante qui supposerait qu'il y ait un programmateur qui organise l'ensemble des manifestations sur une période donnée, et de se dire en fait autour d'un... C'est pas un sujet la Méditerranée, c'est un lieu. C'est-à-dire l'idée de cette biennale, c'est de réunir sur un temps et un espace assez long des artistes travaillant sur toutes les rives du bassin méditerranéen. Et un des principes de départ, c'était d'associer un certain nombre de partenaires, de structures culturelles, non pas en leur demandant s'ils voulaient bien accueillir telle ou telle pièce que nous aurions choisie, Nathalie et moi, puisque le Théâtre des Trésors est à l'initiative de cette biennale, mais plutôt de se mettre autour de la table de façon très régulière et de construire ensemble un programme qui ait sa cohérence, ses écarts aussi, parce que les lieux sont des lieux qui ont des missions différentes, qui ont des tailles différentes et qui chacun propose d'une certaine façon une pierre à l'édifice de cette biennale. Et on s'efforce ensemble de faire en sorte que ce temps-là ait sa cohérence, qu'on n'écrase pas les écarts entre les disciplines, entre les dimensions, entre les économies de nos différents lieux qui ne sont pas les mêmes. Donc on se répartit en gros selon nos forces et nos obsessions le travail, et ça donne lieu à des discussions extrêmement régulières. En fait, tout au long de l'année, ce que soulignent les partenaires, c'est qu'on se réunit à l'occasion de la Biennale, quand il y a la présentation du programme de la Biennale au public, mais tout le reste de l'année, on discute, on envisage, on construit des plans, parce que c'est une des entreprises qui ne sont pas faciles de faire venir des artistes du bassin méditerranéen à Montpellier sur un temps long, etc. Donc en fait, on essaye d'être effectivement plus intelligent collectivement que simplement avec une seule tête pensante à la manœuvre, quoi. Voilà.
Alors cette notion de collectif qu'on va explorer notamment dans le prochain numéro d'Intermédie, en se posant la question où en est le collectif. Là, vous nous dites, elle rassemble un ensemble d'acteurs, elle trouve une cohérence. Cette cohérence, comment elle se construit ? Parce qu'on peut penser, enfin, dans les réflexions qu'on a menées au sein de notre comité de rédaction sur la notion de collectif, on en arrivait à... Parce que c'est très vague, en fait, un collectif. Et on se demandait si, quelque part, le collectif, il prend pas forme à partir du moment où il va se confronter à la dimension politique, quelque part. Est-ce que c'est ce qui s'est passé, ou est-ce que c'est ce que vous avez envisagé au sein de ce collectif-là ?
Oui, après, hein ? On n'est pas groupé et réuni sous un étendard ou dans une direction politique déterminée, contrairement à ce qu'est le travail d'un parti ou d'un collectif militant qui a une cible bien précise, qui se donne une mission bien précise. Là, la question, c'est de faire en sorte qu'on accueille des artistes travaillant autour du bassin méditerranéen. Mais par contre, ce qu'on mesure, c'est que rien ne se fait sans que les problèmes soient partagés, sans que la discussion laisse le temps à la contradiction, qu'on ait des cas précis où des choses arrivent dans des points d'impasse, de butée, où on cherche à les dénouer ensemble, et que finalement, il y a une cause commune, qui est l'organisation de cette biennale, qui dépasse les intérêts ou les problèmes que les uns peuvent avoir chacun dans sa structure. En gros, la dimension collective, c'est ça. C'est juste de dire, et ça, ça vaut, je dirais, dans tous les secteurs. C'est de voir, constater qu'on a des problèmes communs ou différents et qu'on peut s'aider en n'étant pas seul face à son problème à les résoudre ou à les dépasser ou à les transformer. Et ça, c'est une dimension essentielle parce que l'isolement, non seulement des artistes eux-mêmes, mais dans une certaine mesure aussi des structures elles-mêmes, étant face à aux partenaires publics, étant face, demande forcément, pour que les problèmes se déplacent et soient porteurs de transformation, être partagés. Si chacun reste dans sa compagnie, pour prendre l'exemple des artistes, où chacun reste dans sa structure et fait face seul aux problèmes ou aux attaques ou aux offensives qui lui viennent en face, eh ben, de fait, il est beaucoup moins fort. Voilà. Donc ça, c'est, je ne sais pas comment dire, le béaba de l'organisation collective. Mais comment on vit une période où la question de l'individualisation a été bien installée dans les esprits et dans les pratiques, ça devient d'autant plus nécessaire de reconnaître qu'on partage les mêmes problèmes. Et déjà, je dis dans la sphère, disons, culturelle, mais évidemment qu'on s'aperçoit très vite, à partir du moment où on se lance dans ce genre de travail, que les problèmes que rencontrent les structures culturelles, dans une mesure différente, sont structurellement d'un ordre proche de celui qu'on peut rencontrer dans les hôpitaux, dans les écoles. Et qu'en fait, la façon de faire face à ce qui s'apparente à une espèce de guerre d'usure, demande qu'on invente des solidarités, des transversalités. Voilà, sans quoi la formule du diviser pour mieux régner est toujours opérante, quoi. Donc, face à cette division-là, et pour essayer de se construire aussi des outils et des armes, le collectif me paraît la moindre des choses, disons.
Programmé dans le cadre de la Biennale, chanteur marocain humaniste Walid Ben Salim a pris 7 pour port d'attache. Il cultive une passion dévorante pour la musique et la poésie qu'il mélange avec grâce Il était accompagné pour ce morceau à la harpe par Marie-Marguerite Cano. On retrouve Olivier Saccomano pour évoquer le contexte de la Biennale des Arts de la Seine en Méditerranée, imaginé comme un lieu de carrefour et de partage. Alors parmi justement les choses que vous avez pu identifier en commun comme problématique, vous citiez la crise de la culture qui est, et ça s'est dit dans la présentation aujourd'hui, qui s'élargit pas seulement à la culture mais à l'ensemble des services publics. Et puis il y a peut-être aussi ce qui est en train de se passer à Gaza et en Palestine en général. Et peut-être même à un niveau individuel, indépendamment du fait d'être artiste, de ce sentiment d'impuissance qu'on peut ressentir et comment est-ce qu'on peut vivre notre humanité en sachant qu'il se passe ça tous les jours. Il y a un impact de la guerre, comment il apparaît à travers le collectif et peut-être aussi à travers la programmation de cette biennale.
Bah, ça a été une question tout de suite. On est frappés les uns les autres de façon, encore une fois, très différente. On n'a pas les mêmes histoires, les gens qui composent ce collectif. Nous, on a énormément de camarades qui travaillent au Liban, qui travaillent en Palestine. Et donc, il y a eu des effets très, évidemment, très concrets, très matériels, d'empêchement. On devait faire les rencontres entre artistes à Beyrouth l'année dernière qui ont été annulées. Il a été très compliqué. On a Bachar Mourkous qui vit et travaille à Haïfa, qui est un artiste palestinien, a été pris lors de la dernière biennale dans la confrontation avec un discours de plus en plus dominant en Europe où on lui demandait en gros de se taire sur ce qui existait. Ou alors ce qui n'est pas le cas ici à la biennale, mais dans le rapport qu'ils ont à ce qui est encore pour le monde culturel une ressource, parce que l'Europe est quand même un lieu où il y a encore des politiques publiques culturelles, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays du bassin méditerranéen. Et on est, à vrai dire, très poussé par nos camarades qui vivent dans ces situations-là à ici ne pas lâcher l'affaire. C'est-à-dire à dire, on sait que c'est difficile pour des raisons qui sont crise de la culture, on sait que c'est difficile parce qu'on absorbe un certain nombre de tensions, on a un certain nombre d'empêchements, d'intimidations. Et c'est plutôt venant de nos camarades artistes que eux nous disent, mais si vous vous lâchez, ce que vous essayez de construire avec la Biennale, il n'y a plus rien. Donc il ne faut pas se dire que parce que par exemple il y aurait plus grave, on baisse le pavillon. Au contraire, les luttes entre elles s'articulent et s'empilent et s'additionnent. Et donc il faut arriver à tenir des points à l'intérieur de cette situation-là. Et je le dis d'autant plus, fanfaronner, que cette demande-là vient des artistes qui vivent dans les situations les plus critiques. Parce que mine de rien, on se refait des forces pendant le temps de la Biennale, avec certains et certaines, des forces artistiques, des forces historiques, des forces politiques, parce qu'on a cette pratique ici de la discussion collective. C'est pas un festival où les artistes se succèdent les uns aux autres, c'est un festival où est pensé un espace de rassemblement et d'échange entre les artistes et les publics. Donc c'est aussi une manière de déverrouiller le rapport à simplement « je viens présenter mon spectacle dans une manifestation culturelle ». C'est d'autres choses qu'il s'agit.
Et c'est aussi un moyen d'élargir le collectif, on parlait des acteurs culturels locaux et régionaux, à l'ensemble de la création artistique sur le bassin méditerranéen. D'ailleurs, entre la Biennale, vous parliez de l'annulation à Beyrouth, mais il y a eu quand même à Gaza aussi, entre le festival, une manifestation qui est décentralisée par rapport au lieu de naissance du festival.
Oui, mais qui n'est même pas décentralisée, c'est-à-dire que ce n'est pas le Théâtre des Trésors ou la Biennale qui a organisé ce qui s'est donc appelé la dérive casablancaise, c'est Myriam Jazouli, qui est une artiste chorégraphe qui vit à Gaza, qui a participé aux rencontres ici entre artistes lors de la Biennale, qui a souhaité organiser à Gaza, dans une espèce de contretemps avec les années de la Biennale, des temps de rencontres entre artistes. Donc c'est une espèce de rejeton des rencontres, mais c'est totalement réapproprié par elle, et donc c'est des points de relance, on va dire, parce qu'on se disait 2 ans, bêtement, c'est 2 ans, c'est trop long pour se retrouver. Et donc il y a eu des espèces de points de relais et qui, à notre grande joie, se pérennisent. C'est-à-dire, il y a aussi un côté très éphémère dans le festival. Ça fait paf, feu d'artifice et ça s'éteint. Et notre souci était de dire, mais les forces qu'on arrive à se faire ici, il faut qu'elles puissent s'organiser dans la durée. Et donc, certains de nos camarades, nous disant aussi, chose très importante, la France ne peut pas être à chaque fois la puissance invitante dont de fait nous dépendons. Il faut qu'on arrive, et puis on le fait évidemment en bonne intelligence, et on soutient ces manifestations en y allant, en venant y jouer, en venant y parler aussi. Mais c'est entièrement organisé, en l'occurrence des Rives Casablancaises par Myriam Jazouli, tout comme les rencontres entre artistes devaient avoir lieu pendant le festival Zoukak l'année dernière à Beyrouth. Donc c'est vraiment eux qui l'organisent, quoi. Voilà.
On n'est pas dans le schéma colonialiste qui irrigue encore pas mal notre pays. Alors, ici à la Biennale, quand les artistes viennent un petit peu de partout, ils restent et ils échangent ensemble. Et c'est cette dimension-là, peut-être, qui permet de donner une suite à cette initiative que vous avez lancée. Chacun des artistes se retrouve dans des situations très différentes, en fait.
Oui, bien sûr. Oui. Non, ça part vraiment Je rappelle souvent, c'est que ça part de l'idée des rencontres entre artistes, la Biennale. Il y a le programme de spectacle, mais le cœur secret de la chose, c'est ces rencontres-là. On avait appelé ça, une fois, pour rigoler, on s'était dit on faisait des RITA, des rencontres internationales des travailleurs de l'art, qui étaient un peu souterraines, parce que c'est un huis clos. Il n'y a personne, il n'y a pas de public dans cette période-là. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est un peu le moteur de l'ensemble. À tel point qu'on a invité des artistes parce qu'on avait eu écho par des amis de leur travail, que leur travail était intéressant. On les a invités à participer à ces rencontres sans programmer leurs pièces. Par exemple, lors de la dernière biennale, le Kepler 452, qui sont deux jeunes artistes italiens qui vivent à Bologne, ils sont d'abord venus, on n'avait vu aucune de leurs pièces. On les connaissait ni d'Ève ni d'Adam parce que quelqu'un en Belgique nous avait dit qu'ils ont fait une pièce très intéressante sur une occupation d'usine. On les a invités à causer avec nous et la discussion, le dialogue font qu'on est allé voir leurs pièces à Turin et qu'on a coproduit et qu'on accueille cette année dans la Biennale leur nouvelle création. Donc ça se tisse comme ça sur une toute autre logique que celle du catalogue, je ne sais pas comment appeler ça, mais de l'offre. Mais c'est tenu et stratifié par des discussions, des soirées passées ici, des choses qu'on voit ensemble, des pièces d'autres artistes qu'on voit ensemble, dont on parle, etc. etc. Donc ça c'est... Ouais, c'est le travail de base, quoi.
Travail de base, initiative quand même très, très innovante qui remplit aussi la mission du CDN, notamment au niveau des créations.
Oui, ça c'est très important de se dire qu'on essaye dans la mesure du possible qu'il y ait des créations qui naissent ici à la Biennale, pas par goût de présenter absolument l'exclusivité, mais justement parce que c'est né par la Biennale, certains des projets, et donc ça semblait tout à fait logique de coproduire ces pièces, de les accompagner, de les présenter ici, dans l'édition, quoi. Donc ça, oui, c'est création et production et accompagnement d'artistes sur le temps long. Ça fait partie des missions qui sont celles du Centre Dramatique. Et puis aussi avec le fait que en théâtre, disons, faire venir des équipes étrangères, c'est une entreprise, c'est une aventure, et qu'il faut aussi avoir les reins assez solides pour le faire. Et donc, on essaie de s'en charger, nous, côté CDN, que le théâtre, une partie du théâtre international, vraiment théâtre, je ne parle pas ici ni de danse, ni de cirque, puisqu'il y a aussi ces disciplines-là qui sont présentées à la Biennale, mais que sur la partie théâtrale, on puisse accompagner, produire des artistes méditerranéens et les inviter à présenter leurs œuvres ici.
Et on n'a pas, peut-être on va te conclure avec une dimension dont on n'a pas parlé, c'est celle du public qui, elle aussi, est renouvelée quelque part par rapport à cette initiative.
Oui, c'est la même logique, hein, celle du... J'aime pas trop dire croisement parce que ça fait un peu, je sais pas comment dire, ça fait rond-point au sens on se croise. Nous, c'est plutôt des intersections, des carrefours, je sais pas. Et se dire, on construit des points de rencontre et effectivement qui dévient possiblement des habitudes ou des parcours qui sont celui d'un spectateur ici qui vient voir soit des pièces dans tel ou tel théâtre parce qu'il habite à côté ou parce qu'il est attiré par telle ou telle forme théâtrale. On essaie de faire en sorte que le programme de la Biennale permette aussi au public d'aller d'un lieu à un autre, et ça on l'a constaté lors des précédentes éditions, chose qu'on essaie de renforcer. C'est toute une logistique bête mais essentielle de navette pour pouvoir venir. Et puis aussi, il ne faut pas minorer le fait que les artistes étant présents, le public les voit et les revoit. C'est-à-dire qu'ils les voient en venant voir leur pièce, ils les voient comme spectateurs d'une autre pièce, ils les voient parce qu'ils participent à des rencontres ou à des stages et des ateliers. Donc c'est une autre manière que simplement la vision du spectacle, quoi, de fréquenter ces artistes qui sont réunis ici pendant le temps de la Biennale.
Alors, tandis que certains veulent nous préparer à la guerre, le secteur de l'ESS se regroupe autour de valeurs humaines. Les syndicats des journalistes et les médias indépendants résistent à la droitisation du discours dans les médias. Le monde des artistes se solidarise et ouvre ses frontières aux artistes méditerranéens pour défendre la création. Avec une idée commune, celle de rassembler, de se rassembler, de faire front ensemble avec nos différences. Ainsi s'achève notre escapade du jour. Merci à Issa à la technique. On se retrouve l'année prochaine sur les ondes de Radio Escapade. D'ici là, vous pouvez suivre nos actus quotidiennes, interrégionales et méditerranéennes en accès libre sur intermidi.org. Vous pouvez soutenir aussi nous soutenir pour permettre d'éditer le prochain Intermidi Mag consacré aux différentes manières de vivre des expériences collectives. Vous inscrire à la newsletter pour recevoir les infos et surtout ne pas vous priver de faire la fête.